fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 10. Voici un char de feu, et des chevaux de feu. Le soir du 1er mars, comme Lord Marnell était assis avec Marjorie dans la cellule de celle-ci, elle lui demanda timidement s'il voulait lui accorder une faveur. Elle désirait vivement écrire une dernière lettre à sa mère, et les matériaux lui manquaient. Pourrait-il les lui procurer ? Lord Marnell répondit aussitôt qu'il ferait tout son possible pour la satisfaire. Le lendemain, lorsqu'Alice revint de Marnell House, où elle était allée chercher du linge pour sa maîtresse, elle rapportait aussi avec elle une miche de pain. À cette vue, le geôlier fronça les sourcils, mais Alice lui représenta que Lady Marnell n'aimait pas la nourriture de la prison, et qu'il serait cruel de lui refuser un morceau de pain de la maison, alors qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Le geôlier hocha la tête, mais la laissa passer. Une fois en sûreté dans la cellule, Alice brisa la miche, et en sortit un petit encrier, une plume et plusieurs feuilles de papier finement roulées. Les yeux de Marjorie brillèrent à cette vue, et elle écrivit sa lettre en cachette la nuit suivante. Mais comment la faire sortir de la prison sans danger ? Alice résolut cette nouvelle difficulté, en proposant de coudre la lettre dans un des oreillers, qui devait être rapporté à Marnell House après l'exécution. Le dernier jour de Lady Marnell s'écoula lentement et comme le soir arrivait, la clé du geôlier graissa dans la serrure. Marjorie leva les yeux s'attendant à voir son mari, mais ce fut l'abbé Bilson qui entra. Le mielleux prêtre s'avança la tête baissée et les mains jointes, sans répondre à la salutation de Lady Marnell. Puis il s'assit sur une chaise, et pendant quelques minutes, considéra Marjorie en silence. « Pour quelle raison êtes-vous venu, mon père ?»« Pour te regarder, enfant du démon. » Telle fut la réponse polie de l'abbé. Mais à ce moment, on entendit à la porte la voix irritée de Lord Marnell. « Si tu désires voir un enfant du démon, tu n'as nul besoin de regarder plus loin que ton miroir. » L'abbé s'était levé. « Il ne convient pas à de pauvres et humbles serviteurs de Dieu de s'accorder un objet de vanité tel que le miroir, » dit-il en tirant son rosaire et en commençant à l'égrener dévotement. « Serviteur de Dieu !» répéta Lord Marnell, trop irrité pour être prudent. « Crois-tu être un serviteur de Dieu ? Si Dieu n'en a pas de meilleur que toi, il est réellement bien mal servi. » L'abbé jeta un regard oblique à Lord Marnell, mais ne répondit rien et continua à murmurer ses prières plus dévotement que jamais. « N'as-tu pas d'autre endroit pour y marmotter tes prières ?» s'écria le baron impatienté. L'abbé se dirigea sans mot dire vers la porte. Mais arrivé là, il se retourna, et étendant le bras vers Marjorie et son mari, il murmura quelques mots inintelligibles. « Sors d'ici avec tes malédictions !» s'exclama Lord Marnell hors de lui. Mais l'abbé avait déjà disparu, sans qu'on sût comment. Il semblait s'être évanoui dans la nuit de quelque mystérieuse manière. « Enfin nous en voilà débarrassés !» dit Lord Marnell avec un soupir de soulagement. « Hola, geôlier, ferme la porte, je te prie, et laisse-nous seuls un moment. » Le geôlier obéit, et Lord Marnell s'asseyant auprès du lit de sa femme, lui conseilla de dormir. Mais elle lui répondit en souriant qu'elle ne dormirait plus dans ce monde. « Eh bien, Madge, reprit-il, avez-vous encore quelque chose à dire ? Puis-je quelque chose pour vous ? Croyez-moi, ce serait avec joie que je ferais n'importe quoi pour vous. Monseigneur, je vous recommande mes serviteurs, et tout spécialement Alice, qui m'a servi et soigné avec dévouement. Et je désire qu'elle demeure auprès de notre fils, si elle y consent. Je voudrais aussi que l'on parle de moi à notre pauvre enfant, afin qu'il ne m'oublie pas, mais par-dessus tout, qu'on lui parle du Seigneur pour lequel je vais mourir, et qui, m'ayant aimé dans ce monde, m'aime jusqu'à la fin. Dites-lui que Christ doit avoir la première place dans son cœur. J'ai confiance qu'il sera amené au Sauveur, j'ai tant prié pour lui, et Christ m'a promis que tout ce que je demanderais en son nom, il le ferait. Marjorie, avez-vous jamais prié pour moi ? Souvent, Seigneur, bien souvent, et je le ferai encore jusqu'à mon dernier soupir. L'Église enseigne que les morts peuvent prier pour les vivants, dit Lord Marnell. L'Église l'enseigne, mais je ne l'ai pas lu dans le livre. Toutefois, si c'est le cas, je prierai Dieu, là-haut, pour vous. Marjorie, il faut que je vous dise que vos paroles, et toute votre conduite, ces derniers temps, m'ont fait réfléchir davantage que je ne l'avais fait jusqu'ici. Ce sera une satisfaction pour vous peut-être. Vous semblez attacher peu d'importance à la perspective du feu que vous traverserez pour atteindre la gloire. Pourrais-je en faire autant ? Ne dites pas la gloire, Seigneur, mais Christ. Je ne voudrais pas être dans la gloire sans Christ. Je me réjouis en vérité si dans ma faiblesse, J'ai pu être de quelque utilité pour votre homme. Et, croyez-moi, si vous devez un jour passer par la même épreuve, Christ vous donnera la force nécessaire pour la supporter. Qu'est-ce grand-chose, quand on aime Christ, et qu'on le voit de l'autre côté du feu, de traverser les flammes pour le rejoindre? Oh, mon cher Seigneur, je vous dis ces paroles du seuil de la cité céleste, et vous prie de les enseigner à mon fils. Il vaut mille fois mieux ne rien posséder et avoir Christ, que de tout posséder sans lui. Ces mots résonnaient encore aux oreilles de Lord Marnell le lendemain matin, vers 8 heures, comme il se tenait sur le perron de Marnell House, et regardait la tour, en suivant en pensée les lugubres préparatifs qu'on y faisait. Marjorie avait préféré être seule, pour ce moment suprême. Lord Marnell fut tiré de sa funèbre rêverie, par quelqu'un qui prononçait son nom. Se retournant, il vit deux hommes, vêtus comme des voyageurs. L'un d'eux était âgé. Sa barbe et ses cheveux étaient blancs comme neige. L'autre était Richard Pinson. Messire Pinson, qui vous amène ici? L'enfant se porte-t-il bien? Il va bien, ainsi que Dame Lovell, répondit Richard d'une voix étouffée. Nous sommes venus ici pour des affaires qui concernent mon ami ici présent, et nous venons d'apprendre que Lady Marnell doit mourir aujourd'hui. Ce n'est que trop vrai, hélas, n'y a-t-il donc aucun moyen de la sauver? S'écria Richard avec désespoir, je donnerai ma vie 100 fois pour elle. Et moi de même, répondit Lord Marnell. Non, il n'y a rien à faire. Le roi a refusé sa grâce. Quand sera-ce? À 9 heures. Venez, maître Carève, dit Richard à son compagnon, allons là-bas. Irez-vous voir son supplice? Je veux la voir, dit Richard, jusqu'à ce qu'elle entre dans le paradis de Dieu. Ce matin-là, longtemps avant 9 heures, une foule immense se pressait sur Toville. Les uns, comme l'archevêque Arundel, venaient là plein de haine, heureux de voir mourir un Lollard. D'autres avaient au contraire le cœur rempli de pitié pour la jeune femme, qui allait être un des premiers martyrs de la foi nouvelle. Mais la plupart des assistants étaient accourus là, comme à un spectacle, tout naturellement, et sans s'embarrasser de questions plus profondes. Comme la grosse cloche de la tour sonnait 9 heures, Marjorie apparut, accompagnée du shérif et de l'abbé Bilson. Elle était vêtue d'une longue robe blanche, sa tête était découverte, et elle marchait pieds nus. Elle avançait lentement, mais avec le plus grand calme. Arrivée au lieu du supplice, le shérif la pressa de se confesser. « Je me confesserai, répondit-elle, à celui qui seul peut m'absoudre. » Et levant ses yeux au ciel, elle dit d'une voix claire et ferme, « Ô Seigneur Dieu, qui es au-dessus de toutes choses, et qui a donné ton Fils qui est mort pour nous, je te confesse que je suis une pauvre pécheresse, indigne de ta grâce et de ta miséricorde. Jour après jour pendant 23 ans, j'ai fait, dit et pensé ce que je n'aurais pas dû penser, dire ou faire. C'est pourquoi, ô Père, qu'il te plaise, dans ta bonté, de me pardonner, et de ne pas me voir moi, mais ton Fils Jésus-Christ, par la justice duquel je suis justifié, et qui m'a aimé comme toi, tu l'as aimé. Ô Seigneur Dieu, ne détourne pas ta face de ta servante, au cœur de laquelle tu as mis cette prière. » L'abbé et le shérif étaient extrêmement contrariés, mais il nous est imposé silence à leur victime, car toute la foule semblait suspendue à ses lèvres. « Il n'y a pas grand mal dans ce qu'elle dit là, me semble-t-il, » remarqua une femme debout à côté de Pinson. « Veux-tu te confesser, misérable hérétique ?» demanda encore l'abbé. « Je viens de me confesser à Dieu, » répondit Marjorie, « et je ne me confesserai pas à un homme. » Les aides du bourreau empilèrent alors le bois de manière à ce que le bûcher se consumât rapidement. Puis le shérif lut à haute voix l'acte d'accusation. Il était fort long, et cette lecture dura près d'une demi-heure. Puis les aides lirent Marjorie au poteau avec une chaîne. Le bourreau s'approcha alors du bûcher avec une torche allumée. « Me permettez-vous d'adresser encore quelques paroles à la foule ?» demanda Marjorie à Bilson. « Jamais, dit-il, vous n'avez déjà que trop parlé. Que Christ vous pardonne tout le mal que vous m'avez fait. » Les fagots commencèrent à flamber. Marjorie, debout sur le bûcher, les mains croisées sur sa poitrine, restait immobile les yeux levés au ciel. Les flammes montaient, et se tordaient autour d'elle. Mais elle semblait ne rien voir, ne rien sentir. Pas un frisson, aucune terreur, sur ce pâle visage qui regardait en haut. Mais au contraire, une radieuse expression d'extase. Et soudain, on entendit la voix mélodieuse de Marjorie Lovell, qui s'élevait aussi claire, aussi pure, que jadis, dans le paisible manoir paternel. Elle disait, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance et richesse, et sagesse, et force, et honneur et gloire. » La voix s'éteignit, et les mots et bénédictions. furent prononcées dans la gloire du ciel. Du milieu de la foule, s'éleva une autre voix qui ressemblait singulièrement à celle de Richard Pinson. « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, encore qu'il soit mort, vivra. Et quiconque vit et croit en moi, ne mourra point à jamais. » La noble troupe des martyrs te loue, ajouta à mi-voix le vieux Carrève. C'est ainsi que Marjorie Marnel glorifia le Seigneur dans les flammes.